On a eu plein de péripéties, mais après ça, on a ouvert l'inscription pour notre premier cours. Puis je pense qu'on a eu 600 inscriptions pour un cours qui était dans les milliers de dollars là, en US. Fait que on est passé de zéro à 7 chiffres, t'sais, en gros, là, dans les premiers 3 mois.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 124e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Souleka Monpetit pour le 124e épisode du podcast. Souleka, qui est la dirigeante de l'entreprise L'Institut des jardiniers maraîchers, une plateforme de cours en ligne conçue pour les agriculteurs, nous a fait le plaisir de partager avec nous l'histoire assez atypique du lancement de son entreprise. L'organisation qui a été lancée en 2017 par Jean-Martin Fortier et Souleka a considérablement grossi dans les dernières années au point de maintenant desservir des clients dans 80 pays. Dans l'entretien de près de 45 minutes, on parle donc du parcours en affaires de Souleka, de la croissance de l'Institut des jardiniers maraîchers ainsi que des plans futurs des deux fondateurs. Sans plus attendre, ma discussion avec Souleka Monpetit. Souleka Monpetit, vous êtes la cofondatrice et PDG de l'entreprise L'Institut Jardinier Maraîcher, une organisation qui offre des formations en ligne sur comment gérer efficacement sa ferme écologique. Lancée en 2017, l'entreprise vit une croissance considérable année après année et se positionne comme un leader dans sa catégorie. Souleka Monpetit, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bien, merci à toi de l'invitation.
Et Souleka, je suis toujours curieux de savoir comment l'entreprise a été fondée avant d'atteindre certains piliers de croissance. Peux-tu nous ramener à 2017, quand tu as lancé ce projet avec ton partenaire Jean-Martin?
Oui, donc moi, j'ai un parcours vraiment atypique, puis j'ai vécu quelques années en Californie. À l'époque, j'ai été en contact avec tout l'univers des cours en ligne, du coaching numérique. Je connaissais des gens qui faisaient ça, puis je trouvais ça intéressant, l'idée de pouvoir pouvoir toucher des gens dans une niche, mais à travers l'Internet, le pouvoir de ça. Puis aussi, moi, j'ai développé en tant qu'autodidacte une expertise à développer des sites web, WordPress, Squarespace, tout ça. Donc, Jean-Martin Fortier, mon associé actuellement, il avait besoin d'aide pour son site web. Il était complètement perdu dans le monde numérique. Puis il y a quelqu'un qu'on avait en commun qui nous a mis en contact. Puis moi, notre premier meeting, lui, il avait déjà son livre qui est un best-seller. Il faisait des conférences partout à l'international, aux États-Unis. Il était complètement brûlé de tout le voyage qu'il faisait. Puis tout de suite, j'ai dit, il faudrait que tu fasses un cours en ligne. T'sais. Mais initialement, c'était mon client. Je l'ai aidé à faire son site web. Mais tout de suite, j'ai commencé à bâtir vraiment une infrastructure numérique, à monter une liste d'envoi, à investir beaucoup dans le courriel, faire l'acquisition de contacts. Puis, tu sais, de fil en aiguille, on a appris à se connaître, à travailler ensemble. Puis après peut-être un an et demi, on s'est dit OK, là, on le fait, tu sais. Puis on a amené aussi un vidéaste qui était partenaire dans le projet aussi. Puis tu sais, on a passé un an là à, tu sais, moi j'avais d'autres clients aussi, j'étais travailleur autonome, j'ai juste tout monté, le site web, la plateforme de cours, tout le l'entonnoir, le marketing, tout ça. Puis pendant qu'eux autres étaient à la ferme. Donc, tu sais, le cours s'appelle la masterclass du jardinier maraîcher. Puis c'est essentiellement qu'on a tout documenté, toutes les étapes de production que lui a développées à la ferme des Quatre Temps, qui est une ferme laboratoire pour vraiment former les agriculteurs de demain. Ça serait un peu conseillé comme le Harvard du maraîchage bio. Puis donc, c'est un contexte aussi, c'est la ferme, les propriétaires de la ferme, c'est André Desmarais qui est quelqu'un de très fortuné. Fait que ça l'a permis aussi de créer un contexte qui était idéal dans toutes les façons pour faire la recherche et développement, pour documenter les pratiques. Puis nous, on était un peu dans le mix avec ça, fait qu'on a pu vraiment monter quelque chose. Puis moi, en marge de ça, tu sais, je faisais ces médias sociaux, je faisais tout le site web, tu sais, vraiment prendre l'histoire puis la synthétiser dans des choses que les gens pouvaient comprendre. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup faire, là, tu sais, le storytelling puis le pouvoir de ça. Fait que c'est ça, fait qu'on s'est pendant un an, on a travaillé là-dessus. Puis on a fait notre lancement en décembre 2017. C'était une pré-vente. Puis, tu sais, on était un peu vert au niveau, là. On a fait un webinaire, puis on a eu genre 7000 personnes. Le webinaire a crashé. On a eu plein de péripéties, mais après ça, on a ouvert l'inscription pour notre premier cours. Puis on a, je pense qu'on a eu 600 inscriptions pour un cours qui était dans les milliers de dollars là, en US. Fait que on est passé de zéro à 7 chiffres, tu sais, en gros, là, dans les premiers 3 mois. Fait que ça a été une aventure, tu sais, en anglais, il dit life changing là, pour moi, puis aussi au niveau de l'impact qu'on a eu, qu'on peut continuer d'avoir. Donc on a continué à avancer, mais c'est un peu ça là, la genèse. Puis tu sais, puis essentiellement, moi et Jean-Martin, initialement, on s'était associés pour faire un cours en ligne, mais on est devenus vraiment associés dans tous les projets qu'on fait en affaires ensemble, tu sais. Fait qu'on a plusieurs projets sur le côté qu'on fait ensemble. Puis après ça, ben un peu de facto, je suis sa conseillère au niveau de, tu sais, le branding, puis des choix aussi, parce que moi, quand je l'ai rencontré, les gens dans l'agriculture le connaissaient, mais il n'avait pas fait de show de télé encore, il n'était pas allé à Tout le monde en parle, il n'était pas devenu une personnalité publique. Fait que, tu sais, on a été les deux ramassés dans cette mouvance-là, en fait. Fait que j'ai un peu accompagné toutes ces étapes-là, puis là, ça fait juste continuer là, à ce jour. Fait que, tu sais, c'est ça la jeunesse de notre projet.
Fantastique. Et parce que il faut le dire à l'audience aujourd'hui, tu as un background qui est très online marketing. Tu as été dans le web, je pense, pendant un certain temps où est-ce que tu avais des mandats davantage, comme tu le dis, en tant que travailleur autonome. Ça a été là que tu as mis la majeure partie du début de ta carrière, je crois bien.
Ben en fait, c'est ça. Moi, j'ai vraiment un parcours atypique. Là. Je suis fièrement autodidacte dans les choses que je fais, mais j'ai eu plein de... Tu sais, je suis allée au cégep en arts et lettres. Après ça, plutôt qu'aller à l'université, j'ai passé des années à voyager partout dans le monde en quête de sens. Puis, j'ai toujours été un peu avant-gardiste. Puis, je me suis trouvée vers le marketing numérique parce que ce qui m'intéressait, ça a toujours été comment les idées... Tu sais, comment les idées se transmettent, comment lier des points, tu sais, ensemble, créer, faire du lien, puis qu'est-ce que les gens comprennent, puis tout ça, puis le pouvoir de ça pour changer le monde. Fait que pour moi, quand j'ai découvert que j'étais capable de monter un site web puis créer quelque chose qui n'existait pas, juste en le déclarant à l'univers à travers un site web, on dirait que ça m'a vraiment allumé. Puis quand j'ai lancé mon offre de service en tant que designer de site web, j'avais mis sur mon site web « J'aide les gens qui changent le monde », tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'avais déclaré ça, que c'est ça que je voulais créer, que je voulais faire, je voulais aider ces gens-là, puis qui est venu vers moi, ben c'est Jean-Martin, tu sais. Fait que c'est drôle parce que même à ce jour, tu sais, lui, c'est ça qui l'avait marqué, puis c'est ça qui avait donné le goût de travailler avec moi, tu sais. Je découvre qu'il y a vraiment, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un pouvoir quand on est capable de s'approprier finalement, tu sais, de dire, moi, je veux faire telle chose, puis de le mettre de l'avant, puis même si on n'a peut-être pas nécessairement les credentials ou le sceau d'approbation de l'institution ou de quoi que ce soit, mais quand ça vient vraiment, c'est ancré dans qui qu'on est, puis après ça qu'on est capable de s'outiller pour offrir de la valeur à travers ça, il y a comme une espèce d'alchimie là, qui se passe, puis moi c'est mon expérience.
Fascinant. Puis tu as parlé brièvement de Jean-Martin, donc avant que vous faisiez votre association ensemble en 2017, il a quand même été dans l'industrie en tant qu'agriculteur depuis 20 ans, je crois bien, avec les jardins de la... Et corrige-moi si je me trompe, les jardins de la Grillinette. Et j'ai l'impression que ça a été ça un petit peu qui a été fantastique entre vous deux. C'est que toi, t'es arrivé avec un volet de commercialisation, de marketing numérique, de communication littéralement. Lui avait le savoir-faire, donc au départ, clairement, il y a une belle complémentarité. Est-ce que cette même chimie, ou est-ce que vous avez deux travails, j'imagine, très différents à faire les deux, ça a continué à travers le temps? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez toujours les mêmes tâches qu'au début?
Ah, ben ça a vraiment évolué. Même au niveau, tu sais, n'importe qui a un associé va un peu voir ça. C'est que c'est des relations qui évoluent vraiment avec le temps. Je pense qu'à la base, il faut faut s'apprécier en tant que personne, il faut être ami, tu sais. Moi, je pourrais pas être associée, tu sais, avec une personne que j'apprécie pas ou que je suis pas en lien avec ses valeurs. Puis après ça, ben oui, tu sais, surtout à travers la multiplication des projets qu'on fait, tu sais, dans les dernières années, on a parti deux entreprises parallèles aussi, tu sais. Donc, bon, je pourrais en parler plus tard, mais tu sais, en gros, juste au niveau stratégique, je pense que quand on travaille avec un associé, c'est de comprendre fondamentalement comment l'autre personne fonctionne, puis qu'est-ce qui amène, pas juste au niveau des connaissances, pas juste au niveau de l'expérience, mais sa façon d'opérer dans la vie, tu sais. Puis après ça, ben c'est de trouver un bon fit. Tu sais, fait que par exemple, tu sais, Jean-Martin, c'est quelqu'un qui passe très rapidement à l'action. C'est quelqu'un qui veut faire, là. Il est très souvent, puis c'est quelqu'un qui crée beaucoup de liens, qui attire, qui est très, très humain, très charismatique, qui aime parler aux gens, puis moi, je peux être peut-être plus stratégique. Je vais essayer de réfléchir aux choses pour, tu sais, tourner ça dans des plans qui font du sens, même si je suis une personne très intuitive, là. Je suis pas une personne analytique qui fait des fichiers Excel pour valider mes idées, tu sais. Mais j'ai un bon sens de la valeur, le trouver les leviers, trouver les bonnes personnes, tu sais. Fait que, tu sais, quand on essaie de faire des changements dans la société ou changer des choses, tu sais, si on était juste en train de faire, je sais pas, une entreprise ou qu'on manufacture des tables de jardin, peut-être ça aurait été différent, il y aurait des défis aussi, mais parce qu'on essaie de changer quelque chose d'assez grand puis complexe, c'est comme si on est en constante conversation par rapport à nos prochaines étapes, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis après ça, ben moi, j'ai acquis une expérience que j'aurais jamais imaginée, là, tu sais, juste au niveau de gérer une entreprise, tout le volet administratif, le volet légal, négocier des ententes, négocier avec d'autres partenaires, trouver là les bons fits, puis après tout le volet technologique, numérique, branding, etc. Donc c'est ça, donc à travers les projets qu'on a faits, certains qui ont marché, certains qui n'ont pas marché, on continue d'évoluer puis d'apprendre, tu sais, dans différents secteurs. Fait que ouais, c'est vraiment une aventure vraiment fascinante là, à ce niveau-là. Puis moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être en apprentissage constant. Puis je pense que n'importe qui est entrepreneur a besoin d'avoir cette curiosité-là, cet intérêt d'apprendre. Fait que toutes les choses qu'on fait me permettent de faire ça.
C'est la base même, si on veut rester en affaires. On doit toujours être à l'affût des nouvelles tendances et de comment qu'on est capable d'améliorer notre organisation. Également, sur les cas, j'aimerais parler, bon, un petit peu des 18 derniers mois. Donc, il y a eu beaucoup de messages de notre gouvernement comme quoi qu'il faudrait ultimement avoir davantage d'autosuffisance au Québec, d'être capable d'être une société qui n'a pas tout le temps besoin d'aller à l'extérieur pour aller acheter certaines matières. Surtout, on va le dire au niveau de l'alimentation. Donc, j'imagine que cette vague-là, ces messages-là, ça l'a dû impacter positivement votre catégorie d'entreprise. Peux-tu nous parler un petit peu de ces 18 derniers mois-là? À quel point tu as senti une évolution, peut-être même une prise de conscience à travers les Québécois, à travers même les gens dans n'importe quelle société au monde? Parce qu'au niveau local, être autosuffisant, c'est plus important que jamais maintenant.
Ben, tu sais, quand on parle, je vais amener une précision. Quand on parle au niveau, par exemple, d'un pays ou, tu sais, d'une province comme au Québec, ce qu'on veut parler, c'est de souveraineté alimentaire. L'autosuffisance, c'est plus l'idée que, par exemple, si tu fais un potager puis tu vas être autosuffisant, ou tu sais, t'élèves ta propre bouffe, ça, c'est l'autosuffisance. Mais par rapport au terme d'une collectivité comme une province, le Québec, on veut parler de souveraineté alimentaire. Puis nous, ce qu'on a vraiment vu, c'est que les gens qui sont attirés par le vivant, donc travailler avec la terre, travailler avec les choses vivantes, tu sais, il y en a énormément, mais on dirait que ça l'a comme accéléré ou ça l'a donné une poussée dans le dos à beaucoup de gens. Puis nous, ce qu'on a vraiment vu, c'est on a des personnotypes dans notre entreprise, puis on l'appelle le changement de vie, tu sais. Puis pour nous, tu sais, les gens qui sont en changement de vie, qui décident, ça fait des années qu'ils rêvent à ça, puis là, qui s'intéressent à... C'est soit qu'ils font du jardinage, ou soit qu'ils s'intéressent à la terre d'une manière ou d'une autre, aux plantes ou à l'alimentation, puis tout ce lien-là que ça crée entre les gens. Mais on a vu beaucoup de gens, tu sais, donc la pandémie leur a donné une poussée dans le dos pour faire le move, pour déménager à la campagne, parce que veut pas l'agriculture, en général, ça se passe à l'extérieur des centres urbains. Quoi qu'il y a quand même tout un mouvement autour de la culture urbaine aussi. Fait que ce qu'on a vraiment observé, c'est que ça a accéléré cette espèce de mouvement-là de gens qui, aussi quand on vit dans un monde qui est incertain, je pense que la pandémie, ça l'a fait soulever beaucoup d'incertitudes, de revenir à des choses qui sont tangibles, essentielles, qui font du sens. Je pense que ça a été presque guérisseur pour des gens. Fait qu'il y a eu toute une montée dans les gens qui se sont intéressés au potager, à faire pousser des aliments, toutes les compagnies de semences étaient en rupture de stock, les centres de jardin étaient dévalisés. Donc, on a vu ça dans notre entreprise aussi. Je pense que, en gros, tu sais, nous, on est en processus aussi de un peu d'innover là, de la façon qu'on offre nos cours. Tu sais, c'est comme parce que ça fait essentiellement 4 ans qu'on offre un gros cours hyper complet sur l'agriculture, mais c'est vraiment dédié aux professionnels. Puis aussi, ben, tu sais, il y a quand même un prix, tu sais, une barrière à l'entrée avec le prix qu'on offre. Puis là, on est vraiment en train d'innover pour vraiment créer toute une gamme de cours à la carte, puis tout ça, tu sais. Mais ça requiert beaucoup de détails parce que Il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de développement. Après ça, il faut filmer. Les choses se passent dans le moment. Il faut filmer dans l'été. Après ça, il faut faire le montage l'hiver. Fait qu'il y a toute une complexité à gérer. Mais tout ça pour dire que on a l'impression que la pandémie nous a donné comme une vague, là, un cycle de vie supplémentaire à notre produit, finalement, ouais, qu'on vendait depuis 4 ans, 3 ans. T'sais. Fait que, essentiellement, tu sais, nous, on voit que, tu sais, moi, j'ai toujours vu que la pandémie, ça crée une éclaircie pour des nouvelles choses.
C'est ce que tu disais, ouais.
Ouais.
Ça a comme été une petite tape dans le dos pour aller encore plus vite, là. C'est ce qui s'est déroulé, j'imagine, pour vous. Puis, t'en as parlé brièvement, puis je pense que ça va être intéressant d'en discuter avec notre audience aujourd'hui. Donc, votre équipe de création de contenu. Donc, si on fait des petites recherches, on est capable de voir, vous avez des vidéastes à temps plein qui vont travailler pour vous, des directeurs de création, des gens qui vont être au niveau du graphiste qui vont travailler avec vous également. Donc, vous avez une petite équipe que vous avez construite à l'interne pour faire ce contenu-là essentiellement et ultimement le vendre à votre audience. Comment ça se déroule tout ça? T'en as parlé un petit peu. Est-ce que c'est toujours au même endroit? Est-ce que c'est toujours au Québec que ça se déroule? Comment avez-vous fait ce contenu-là dans votre entreprise?
Ben, essentiellement, le contenu, c'est vraiment basé à... On l'a fait dans les dernières années à la ferme des Quatre Temps qui est à Maplewood au Québec. Puis, tu sais, donc essentiellement, on a une équipe de justement, nos deux activités clés dans l'entreprise, c'est la création de contenu puis le marketing numérique, parce que donc, tu sais, il faut créer quelque chose pour pouvoir le vendre, puis il faut le vendre pour pouvoir en créer plus. Fait que c'est ça, on a des gens en production, on a des gens en marketing, on a des équipes internes, on a des équipes externes aussi de collaborateurs avec qui on travaille. Fait que, donc c'est ça, donc tu sais, notre contenu, on le crée au Québec. On a eu la chance des fois des voyages qu'on a fait d'aller faire plus des témoignages, des choses, mais c'est sûr qu'on se questionne comment qu'on pourrait mettre ça à l'échelle aussi, parce qu'on a comme tu sais, on a des gens partout à travers le monde. Fait qu'il y a beaucoup de d'idées, mais comme peut-être je sais pas si vous vivez ça, mais notre enjeu, notre difficulté, c'est pas de trouver des bonnes idées, en fait, c'est comment toutes les exécuter ou au moins les prioriser, puis comment créer des systèmes qui perdurent dans le temps, parce que tu sais, ce dont on parle pas, c'est, disons, tu lances quelque chose, tu as un succès, mais là, après, il faut que tu le maintiennes. Tu sais, tu continues à le faire vivre, puis comment faire pour que créer des structures qui peuvent maintenir ça. Donc, tu sais, quand on parle même, tu as grandi une équipe, ben là, il faut que tu apprennes à gérer une équipe. Ces équipes-là, ils ont besoin d'avoir des espaces de travail, ils ont besoin d'avoir des systèmes, ils ont besoin d'avoir des objectifs, ils ont besoin d'avoir des KPI, tu sais, fait. Il y a toutes ces courbes d'apprentissage-là qu'il faut prendre en compte, puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Fait que, tu sais, nous, on a beaucoup... on a eu des défis là avec ça la dernière année parce que on a engagé plusieurs personnes assez rapidement. Mais là, on sent qu'on est en train de trouver là notre équilibre là-dedans.
Puis, tu en as parlé de comment vous créez le contenu. Maintenant, serais-tu capable de partager un petit peu avec l'audience aujourd'hui comment vous l'avez commercialisé? Parce que je crois que c'est... une des choses que t'aimes, peut-être même également une de tes forces, le marketing numérique, la commercialisation en ligne. Comment ça s'est fait du jour au lendemain, vendre des milliers de cours qui vont coûter des milliers de dollars? C'est du stock, ça. Je suis dans cette industrie-là aussi. Je le vois, c'est pas tout le monde qui arrive à vendre, à faire des lancements de cours en ligne de ce calibre. Comment tout ça est arrivé? Comment avez-vous été capable de générer ce succès?
Ben, c'est sûr que moi, je me suis inspirée beaucoup aux États-Unis, tu sais, un peu des gens qui font ça. J'étais allée prendre à gauche et à droite, puis tu sais, essentiellement pour définir les contours du produit, autant le prix, autant la proposition de valeur, tu sais, je suis allée voir dans d'autres industries, mais de dire, par exemple, dans à peu près dans beaucoup d'industries, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des cours qui étaient des cours dédiés aux gens qui font ça de leur métier, donc tu sais, c'est un cours qui a une aspiration qui est professionnelle, puis qui avait une substance, que c'était vraiment puis c'était dans ces eaux-là au niveau du prix. Puis moi j'étais convaincue là qu'on avait une audience que moi j'avais un peu en anglais je dirais nurturé là pendant tu sais des années, en fait, parce que dès le jour 1 où j'ai commencé j'ai fait le site web de Jean-Martin, j'ai mis un onglet cours en ligne avec un petit vidéo teaser de 1 minute, puis une place pour s'inscrire sur la liste d'attente. Fait que moi là, j'ai beaucoup travaillé avec la rareté de mettre des limites dans le temps aussi. Donc, on a toujours fait des lancements orchestrés où il y a un début puis il y a une fin. Fait que ça fait que il y a vraiment un effet que tout se dirige vers là, puis ça crée un peu là de l'anticipation puis tout ça. Tu sais, je veux quand même dire aussi que moi, j'ai travaillé à partir de quelque chose d'extraordinaire qui était la crédibilité que Jean-Martin était cherché avec son livre. Puis
bien sûr.
Ça, tu sais, je pense que souvent les gens, ils vont dire, oh, un livre, tu peux pas faire d'argent avec ça. Ce qui est, c'est rare que tu fais de l'argent avec un livre vraiment. Mais ce qu'un livre fait, surtout quand tu prends le temps de faire un livre qui a été recherché en détail, qui a vraiment, qui est bien positionné dans le marché, ça te positionne en tant qu'une personne, tu sais, qui a une autorité sur le sujet. Donc, tu sais, le livre de Jean Martin, c'est un livre qui est essentiellement une bible pour des centaines de milliers de personnes à travers le monde, qui remplissait vraiment un besoin. Fait que moi, je me suis basée sur ça. Puis après ça, ben, tu sais, puis j'ai vraiment établi des stratégies d'acquisition assez claires. Mais tu sais, pour en langage de marketing, tu sais, j'avais un entonnoir, tu sais. Fait que, puis aussi l'autre chose. Puis tu sais, tu me le dis si je vais trop geek là, mais tu sais, en gros, nous autres, on a mis énormément, puis on continue de mettre énormément d'investir beaucoup de temps, puis de ressources, puis d'énergie dans les lead magnets qu'on fait. Donc tu sais, les contenus gratuits qu'on met de l'avant. Puis on le sait là qu'il y a peut-être il y a des dizaines de milliers de personnes qui systématiquement vont regarder tous nos cours gratuits, tous nos webinaires qu'on a faits, puis qu'ils vont jamais acheter, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que je pense qu'on a toujours eu l'approche de, tu sais, under promise puis over deliver, de toujours donner beaucoup de valeur en amont. Fait que ça fait que les gens deviennent fidèles. Puis on a eu des gens, par exemple, des gens qui nous ont dit, par exemple, ça fait 3 ans que j'économise mon argent pour prendre le cours, tu sais. Fait que nous, ça nous démontre, c'est qu'il y a des gens qui veulent vraiment prendre le cours. C'est pas juste comme, justement, sur le moment de dire, OK, je vais prendre le cours, OK, je vais rentrer ma carte de crédit, puis je le fais, mais qu'il y a des gens qui, tu sais, qui, année après année, oh, je voudrais le faire. Fait que, tu sais, on a maintenu une constance. Puis aussi, tous nos systèmes, on les a pas mal, tu sais, bien, tu sais, packagés finalement, ou que maintenant qu'on part dans la production d'un nouveau cours gratuit, ben, on sait exactement, tu sais, le format, comment qu'on va être livré, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir en amont, puis comment qu'on peut leur offrir plus de valeur, tu sais. Fait qu'il y a plein de choses qu'on a intégrées au fur et à mesure des années. Mais, tu sais, honnêtement, tu sais, je me suis quand même inspirée des formules qui sont out there, là, sur le web. Fait que.
Jeff Walker, là. Le bon vieux, ouais. Jeff Walker qui nous montre comment lancer des cours, là.
Ben oui, c'est sûr que ça a été une bonne inspiration. Aussi, moi, j'ai été inspirée beaucoup par Marie Forleo, qui est une femme qui fait B-School, qui fait des cours, tu sais, qui a une armée là, de centaines de milliers de femmes entrepreneurs partout à travers le monde aussi. Moi, je me suis beaucoup inspirée de ses enseignements aussi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans notre niche, on est vraiment, c'est pas le top, on est peut-être dans le top 2 ou 3 là, au niveau de notre audience. Puis on continue d'être dans une dynamique de dire comment qu'on donne le maximum. Fait que, par exemple, quand on produit ces mini-cours-là, on a une petite équipe de production. Tu demandais comment qu'on produit le contenu. Puis, tu sais, Jean-Martin, il a formé beaucoup de gens à la ferme. Des gens, tu sais, des gens assez jeunes, mais qui sortent de d'école d'agriculture, qui sont même agronomes. Puis, on a une équipe qui sont agriculteurs, mais durant l'hiver, ils travaillent en recherche et développement avec nous. Donc, ils font de la rédaction, ils font de la recherche. Fait que là, par exemple, on dit, comme là, c'est le cas en ce moment, on est en train de produire un nouveau cours gratuit sur la production en serre, qui est vraiment le sujet, en fait, du moment, parce qu'on vient de sortir aussi un livre qui s'appelle Le maraîchage nordique, qui est en librairie maintenant, si ça vous intéresse.
Bien sûr.
Donc, fait que là, par exemple, on a notre équipe de 3 qui vont sortir les idées, faire la recherche, rédiger, qui sont supervisés par Jean-Martin. Après ça, Jean-Martin prend le contenu, il se l'approprie. Après ça, on fait des allers-retours comme ça. Puis après, ben là, on dit, OK, tel jour, on va aller tourner. Puis on a notre vidéaste aussi, tu sais, que lui, ça fait 5-6 ans qu'il travaille avec nous. Fait que, tu sais, lui, son montage, c'est comme son bébé, là. Fait que c'est ça. C'est tout l'effort, puis, tu sais, la constance de tous ces gens-là qui fait que à la fin de tout ça, ben à la fin, justement, de l'entonnoir, ben quelqu'un va dire, OK, je me lance. Mais même moi, j'ai des moments que ça me pince encore, que je me pince encore de dire, je sais qu'est-ce que ça implique, surtout pour un agriculteur. C'est des gens qui, en général, n'ont pas beaucoup d'argent, ne font pas beaucoup d'argent. Puis de dire qu'on a assez bien fait notre travail, qu'on leur a inspiré assez de confiance pour qu'ils rentrent leur numéro de carte de crédit, qu'ils fassent le pas vers ça, ça me surprend encore, je dois avouer, tu sais.
Ben, c'est un mélange de plusieurs choses. Donc, une bonne stratégie marketing que vous avez été capable de faire. Définitivement, un bon positionnement de Jean-Martin. Un branding qui est assez fort avec le livre. Donc, ça, c'est toutes des choses qui, à la fin de la journée, vont donner un petit coup de main. Ça, Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Également, j'aimerais parler d'un point avec toi qui a été assez intéressant quand je faisais mes recherches sur votre organisation. Donc, l'entreprise Evol, Séverine Labelle qui est venue sur le podcast, d'ailleurs qu'on salue, vous a nommé, ou plutôt t'a nommé sur le cas parmi les 100 femmes qui ont eu beaucoup d'impact dans les dernières années, 100 femmes entrepreneurs. Donc, je te félicite à ce sujet. Et bon, Evol, c'est très orienté sur une mission d'entreprise, une gouvernance spécifique. Pendant longtemps, c'était l'entreprise Femmes Essor, donc c'était 100% orienté vers les femmes. Maintenant, sont orientés avec un petit peu plus de personnes à l'intérieur de leur organisation. J'aimerais t'entendre là-dessus sur le volet de la mission de votre entreprise. On a parlé de commercialisation, on a parlé de profitabilité. Qu'en est-il un petit peu de la mission? Parce que définitivement, vous ne visez pas que de la profitabilité, vous voulez avoir un impact plus grand que nature. Peux-tu en parler un petit peu avec l'audience? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos valeurs, votre mission à l'intérieur de votre entreprise?
Ben, je te remercie de poser cette question parce que pour moi, c'est ça qui vient en premier, en fait. Tu sais, notre vision avec qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise puis toutes les choses qu'on fait, c'est vraiment de multiplier les petites fermes écologiques partout à travers le monde, de permettre aux agriculteurs d'aujourd'hui et de demain d'avoir du succès dans qu'est-ce qu'ils font. Donc ça, c'est quelque chose, c'est ça qui nous tient à cœur, puis parce qu'on croit vraiment que pour avoir une chance à un futur durable pour les humains sur la Terre, d'avoir l'agriculture qui est locale, qui est basée dans la communauté puis dans l'écologie, c'est une des clés là les plus importantes. Fait que tu sais, nous on fait ça à travers l'éducation puis à travers l'inspiration, on offre des cours, des ressources puis une communauté. Donc c'est vraiment ça notre mission. Puis après, ben c'est sûr que c'est dans le cadre d'une mission qui est plus grande. Je pense que les gens ils sont conscients de la transition écologique en général, qu'est-ce que ça veut dire dans les différents secteurs de vie humaine. Nous, tu sais, on se voit là-dedans aussi parce que, tu sais, si on peut évangéliser, puis par rapport à l'idée que de devenir agriculteur, c'est pas juste un métier qui est noble, mais ça peut être aussi un beau mode de vie, puis ça peut être rentable aussi, tu sais. Nous, c'est quelque chose que, tu sais, on pourrait œuvrer là dans cette direction-là pour le restant de nos vies, puis je pense que ça aurait valu la peine, tu sais. Puis après ça, ben quand on parle des valeurs, la façon qu'on le fait, tu sais, pour nous, c'est vraiment de dire on a établi. Je pense que les valeurs d'une entreprise aussi, c'est quelque chose qu'il faut être ouvert à les changer. S'il faut ou en ajouter ou en enlever. Mais nous, tu sais, justement, en ce moment, on considère d'en ajouter deux. On avait trois de base. Mais essentiellement, la première, c'est la bienveillance. Puis, c'est la façon qu'on approche les choses. C'est d'avoir une disposition bienveillante envers les gens avec qui on travaille, mais aussi les gens qu'on sert, puis la communauté. L'appartenance, c'est super important parce que le type d'agriculture qu'on promouvoit, c'est basé dans la communauté. Puis je pense aussi que les gens veulent faire partie d'un mouvement, tu sais, tout ce qui est autour du vivant, puis des gens qui trippent là-dessus, puis le lien que ça crée. Puis après ça, ben pour nous, l'efficacité, c'est vraiment important parce que justement, tu sais, c'est au cœur de notre modèle aussi d'agriculture, parce que tu sais, c'est facile de dire ah, c'est beau, c'est inspirant, tout ça, mais s'il n'y a pas des vraies méthodes, s'il n'y a pas d'efficacité, il n'y aura pas de rentabilité. S'il n'y a pas de rentabilité, ben il y en aura pas de petites fermes, t'sais. Puis là en ce moment, ben justement dans les réflexions actuelles, on considère d'en ajouter deux autres. Fait que notre site web il va avoir besoin d'être d'évoluer à ce niveau-là, mais en gros pour nous, tu sais, l'harmonie c'est très important aussi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est important d'avoir des valeurs qui, et j'aime le terme que tu as utilisé, qui sont capables d'évoluer à travers le temps. Parce qu'une entreprise évolue. Une entreprise peut grandir, une entreprise peut également devenir plus petite des fois s'il y a certains enjeux. Donc, ultimement, les valeurs et la mission même de l'organisation peut changer, peut évoluer à travers le temps. Et je serais curieux, tu le dis, ça, vous le voyez comme la priorité numéro un, c'est on regarde davantage une vision de pérennité de société quasiment, ce serait peut-être le terme à utiliser ici, avant de regarder la variable économique d'un projet?
Oui, ben tu sais, en fait, la variable, pour moi, c'est vraiment important, c'est que la variable économique d'un projet permet à continuer d'accomplir la mission. Tu sais, il y a des gens qui sont attirés plus dans le monde communautaire, dans les OBNL. Je suis moi-même sur des CA d'OBNL qui ont des missions avec lesquelles je suis d'accord. Mais ce que moi et Jean-Martin, on trouve que le véhicule entrepreneurial, c'est beaucoup plus direct pour pouvoir affecter du changement parce qu'il y a beaucoup moins comme d'obstacles. Ça, c'est une des choses. Puis aussi, l'incitatif de profit va faire en sorte qu'on va aller direct au but pour créer de la valeur, tu sais. Alors que si on était dans un mode, disons, organisme de charité ou OBNL, on passerait notre temps à lever du financement, tu sais.
Bien sûr.
Fait que nous, on fait ce choix-là. Puis aussi, donc, tu sais, c'est sûr que moi, c'est drôle parce que dans mes vies passées, j'ai été un peu, tu sais, vraiment plus une personne qui avait des modes de vie alternatifs. J'ai toujours été très frugale. J'ai pas cherché. J'ai commencé ma vie de jeune adulte plus de ce côté-là. Puis c'est plus tard que j'ai comme réalisé que l'argent, c'était une donnée qui est neutre. C'est pas bon ou pas bon, c'est vraiment juste un moyen. Puis que d'apprendre à faire de l'argent, c'était comme apprendre à faire un gâteau ou apprendre à bâtir une maison. Il n'y avait pas de substance, il n'y avait pas de valeur morale ou pas à ça, tu sais. Puis quand j'ai fait ce déclic-là, c'est là que j'étais justement curieuse de dire, est-ce que je serais capable de bâtir une entreprise qui est profitable, est-ce que je serais capable, puis ça nous donnerait des moyens pour faire d'autres choses, puis aussi des moyens pour engager des gens, des moyens pour, tu sais, pour se donner les moyens de faire qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que, tu sais, nous autres, on n'est pas, puis surtout, justement, tu sais, il y a toujours un petit inconfort, surtout dans un milieu, tu sais, nous, une partie de notre mission pour les agriculteurs, c'est de les aider à faire plus d'argent, à être plus rentable, pour que, tu sais, ce mode d'agriculture-là, donc, tu sais, écologique, sur petite surface, puisse se multiplier, tu sais. Puis
c'est un cercle vertueux, tout ça, là.
C'est un cercle vertueux, tu sais, parce que, mais il y a toujours un petit malaise, parce que souvent dans des cultures qui sont peut-être alternatives ou émergentes, il y a beaucoup de gens qui se positionnent, tu sais, par exemple dans les milieux activistes écologiques, ils se positionnent comme contre les forces économiques, tu sais. Puis pour nous, on pense que les deux doivent coexister ensemble, tu sais. Fait que c'est 100%. Ça qu'on met de l'avant dans notre travail, puis c'est ça qu'on promouvoit aussi avec les agriculteurs avec lesquels on travaille.
Fantastique. Et là, on a parlé un petit peu d'évolution d'une entreprise qui définitivement est en croissance. À quoi ressemble le futur dans les prochains mois, dans les prochaines années, des nouveaux cours, des nouveaux lancements, peut-être des tournages dans d'autres pays?
Ben, il y a beaucoup de choses. Tu sais, je veux pas tout révéler, mais je pourrais un peu en parler, mais c'est sûr qu'on va lancer beaucoup de nouveaux cours qui sont en plus petites unités à la carte de perfectionnement, donc qui vont permettre à des gens, disons, qui veulent, par exemple, se spécialiser en production en serre, ou on lance un cours d'introduction qui est vraiment juste un survol. Donc tu sais, plus une gamme de produits d'apprentissage qui sont sur tout un parcours d'apprentissage du débutant jusqu'à l'expert. Ça, c'est une des choses. Et puis on a aussi en parallèle, on est en train de démarrer une start-up en technologie pour créer un logiciel de planification puis de gestion des fermes. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a aucunement publicisé en ce moment, mais c'est vraiment en route, là. On a une bonne petite équipe, on va lever du financement. Donc ça, c'est comme vraiment quelque chose de très excitant pour nous. Mais encore une fois, je veux pas un peu vendre la peau de l'ours. Puis l'autre chose qui est vraiment, vraiment excitant, c'est qu'on est en train de voir si on pourrait, en ce moment, passer d'un modèle 100% numérique à trouver une façon d'incarner notre mission dans un lieu. Se trouver un vrai siège social où il pourrait avoir des activités agricoles, donc, puis une place qui serait peut-être à l'extérieur de la ville. Donc, on est aussi en démarche avec ça. Donc, quand ça va être officialisé, là, vous allez le voir, mais ça nous excite beaucoup, là, finalement, de pouvoir créer un lieu qui serait dédié à ça.
Les idées ne manquent pas chez vous, non. C'est fantastique. Et je terminerai sur les cas sur des petites questions personnelles que je pose à tous les invités qui viennent sur le podcast Hypercroissance. Personnellement, j'ai grandement appris dans le milieu en affaires en lisant, en faisant des lectures. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que ça t'aide un petit peu à te perfectionner dans ce que tu fais au quotidien?
Moi, j'écoute beaucoup de livres audio. En fait, j'ai un abonnement Audible que tu sais que j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai des centaines de livres que j'ai écoutés. Donc, pour moi, c'est vraiment une chose, c'est vraiment de marcher puis de prendre des marches puis d'écouter mes livres audio. C'est vraiment ça qui m'aide beaucoup à évoluer puis à apprendre des nouvelles choses, mais d'une façon dans l'action.
Puis quel livre audio a marqué peut-être ton imaginaire dans les 12 derniers mois?
Bonne question. J'ai presque le goût d'ouvrir mon.
Mais vas-y, ça vaut la peine parce que des bonnes lectures qu'on est capable de donner à notre audience, c'est toujours quelque chose que je me fais énormément poser. Quels ont été les livres? Quelles ont été les propositions que vos invités ont dit? Ça aide notre audience, ça m'aide également personnellement parce que par la suite, souvent, je m'en vais acheter ces mêmes livres. Donc,
ouais.
Toujours intéressant de le savoir.
Un de mes auteurs préférés s'appelle Seth Godin. Pour les gens qui sont dans le marketing, ils vont savoir. J'aime beaucoup. Il y a une autrice qui s'appelle Glennon Doyle, qui a écrit un livre qui s'appelle Untamed. C'est beaucoup par rapport à. Tu sais, c'est beaucoup axé sur les femmes, mais sur comment. C'est un même. Tu sais, en anglais, un memoir. Mais comment elle s'est vraiment libérée, puis elle s'est laissée vraiment être qui elle est. Puis pour moi, en tant qu'entrepreneur, le développement personnel puis le développement professionnel vont vraiment main dans la main. Puis après ça, The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, qui est sur les stoïques puis les philosophies. Puis moi, c'est ça. J'ai vraiment un côté que je suis en constante quête recherche, mais aussi un autre livre que j'ai lu qui m'a quand même touché dans ma façon de gérer mon propre attention, c'est un livre qui s'appelle How to Do Nothing. Puis c'est par rapport à résister l'économie de l'attention. Parce que je pense que tout le monde, surtout quand on travaille dans le numérique, ça peut être vraiment tentant d'être sans arrêt devant Instagram, TikTok, YouTube, de toujours être en train de consommer du contenu. Puis moi, une des choses qui m'aide énormément, c'est vraiment, je prends du temps chaque matin pour écrire. Puis c'est pas des projets qui vont être publiés ou des choses, mais c'est vraiment je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que il faut être entrepreneur, c'est d'être créateur, tu sais. Fait il faut être en contact avec quelque chose ou que on initie, on met de l'avant quelque chose et on n'est pas juste en réaction. Puis quand on est constamment bombardé de contenu et d'informations, on a comme moins accès à ça. Fait que ça, c'est un livre qui parlait de ça, puis qu'il y a tout un volet. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup comme mettre les choses en contexte de manière sociale. Fait que ça, c'est un livre que j'ai bien aimé aussi. Puis après, c'est ça, je prends à parler de beaucoup de livres là, que j'ai écoutés. J'écoute beaucoup de podcasts.
Mais parlons-en, les podcasts. Quels sont les podcasts qui jouent dans tes écouteurs en ce moment?
Moi, il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle On Being, qui parle que c'est une femme aux États-Unis qui a des conversations, mais avec toutes sortes de. C'est un peu comme des conversations un peu intello avec des figures qui ont des messages, des fois spirituels, mais des fois de société. Donc, ça, c'est un des podcasts que j'écoute assez régulièrement. Sinon, justement, j'écoute des podcasts sur l'histoire. J'écoute beaucoup de podcasts en anglais. En fait, je pense que j'ai même pas un podcast en français sur mes. Sur mon application, malheureusement. Puis j'aime beaucoup aussi Brené Brown, qui est connue pour plusieurs de ses livres. Puis elle a un très bon podcast aussi. Elle a vraiment des très bons invités. Il y en a un que j'ai. D'ailleurs, un autre livre que j'ai beaucoup aimé s'appelle The Art of Gathering de Priya Parker. Puis c'est par rapport à comment les gens se rassemblent, toute la signification autour de ça. Puis ils ont fait un. C'était vraiment intéressant. C'était un épisode de podcast en deux parties où c'était la femme qui a écrit le livre. Elle faisait presque comme une intervention par rapport à. L'entreprise de Brené Brown, puis les meetings qu'il y avait, disons, en Zoom depuis la pandémie, puis comment impacter ça positivement. Donc ça, j'ai trouvé ça super pertinent, là, parce que, tu sais, là, on est un peu dans une espèce d'entre-deux, on sait pas si on va revenir à temps plein en présentiel, en même temps, il y a des avantages au télétravail, mais il y a tout un d'autres défis, puis je pense que c'est important d'avoir de l'intention autour de comment qu'on se rencontre, même si c'est par Zoom, même si c'est en virtuel. Donc, c'est juste quelques exemples de choses que j'aime écouter.
Merveilleux. Dernière question que je te pose sur les cas. À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
Comme je disais tantôt, moi, le matin, c'est quand même sacré, là. Je m'assois, peut-être je fais une courte méditation, peut-être 10 minutes, mais tu sais, c'est méditation, mais des fois, je fais soit des pratiques sur la bienveillance, soit observer ma respiration. Puis après, c'est ça, j'écris. Je prends mon café, puis j'écris. Puis après, Après un certain moment, là, je passe plus en mode travail, donc je fais mes listes de qu'est-ce que j'ai à faire. Peut-être je vais lire un peu la presse plus. Puis là, je tombe comme tout le monde sur Slack, sur mes courriels. Fait qu'en ce moment, tu sais, essentiellement, c'est de transmettre des idées, avoir des discussions avec des gens, puis conclure, s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, beaucoup de courriels, de Zoom. Malgré tout, je touche encore à la production moi-même. Il y a encore des vidéos que c'est moi qui va faire les montages initiaux parce que je veux vraiment m'approprier les messages, souvent les textes, des choses que je veux encore faire moi-même. Puis après, ben, c'est ça, j'essaye, ben justement, je partage mon temps entre Frenchburg ici à la campagne, puis j'ai un pied-à-terre en ville. Mais quand je suis ici à la campagne, j'essaye dans l'après-midi, j'habite à côté du Mont Pinac, puis je peux prendre une petite marge dans l'après-midi, justement, écouter des livres audio, des podcasts, puis tu sais, un peu recycler mes pensées, bien
Bien sûr.
comprendre. Puis c'est ça, puis après le travail, ben c'est soit que je vais faire du yoga ou soit que je vais avec un ami, puis on fait un 5 à 7 ou on boit du vin ou on se fait à souper ou. Un peu comme tout le monde, là. Fait que c'est un peu ça. Puis aussi, ben, pour moi, c'est important d'être impliqué dans ma communauté, de t'sais, d'avoir des moments d'échange avec les gens, t'sais, fait que j'aime aussi, justement, j'aime beaucoup cuisiner. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans ma vie. Puis aussi, ben, ici, dans Bromiscois, on a tellement de beaux agriculteurs qui font des beaux produits. Donc, de pouvoir faire des bons repas, avec des produits frais, ça fait toute la différence, là. Fait que, moi, ça fait définitivement partie de mon mode de vie, de prendre le temps de cuisiner puis de partager ça avec des amis, des collègues. Fait que c'est
Merveilleux.
vraiment ça.
Ben, c'est une routine assez chargée et je pense que c'est comme ça qu'on est capable de se garder occupé et d'avoir nos idées au bon endroit. Suleka, mon petit, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Si on veut en apprendre un peu plus sur vous, tu as parlé d'un nouveau livre, il y a des cours qui sont en train, des nouveaux cours qui vont être sortis bientôt sur votre site web. Comment qu'on peut en apprendre plus là, sur votre organisation?
Ben, évidemment, vous pouvez aller sur notre site web, lejardiniermaraicher.com. On a des pages sur les médias sociaux aussi. On a Jean-Martin lui-même, un compte Instagram qui est très suivi, Jean-Martin Fortier. Puis, ben, c'est ça, on a un nouveau livre qui est en librairie partout maintenant. Et puis, c'est un livre, ça s'appelle Le maraîchage nordique. Donc, c'est un livre qui parle de comment on peut justement faire pousser des légumes en hiver au Québec. Ça rentre dans les détails techniques, mais c'est aussi un livre qui peut fasciner les gens. Juste les gens qui sont curieux d'apprendre ça. Puis, ben, comme on disait, on a des cours, un cours d'introduction, en fait, qui est déjà disponible. On l'a pas encore vraiment fait rayonner, mais un cours d'introduction, on peut faire un survol de la ferme. Donc, il y a plusieurs points d'entrée, mais définitivement, venez voir notre site web, puis suivez-nous sur les médias sociaux. C'est la place.
Merveilleux. Ben, Suleka, mon petit, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec notre audience aujourd'hui. Ça a été une discussion plus que fascinante. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Une autre belle histoire de croissance, celle de l'Institut des jardiniers maraîchers. On peut s'apercevoir que des fois, la complémentarité de deux actionnaires peut créer un cocktail explosif pouvant générer de la croissance rapide. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.